Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi matin est Corentin Le Fur. Il est député Les Républicains de la 3e circonscription des Côtes d'Armor. Alors je précise Lamballe-Loudéac pour nos auditeurs lointains. Également, il siège également au groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale. Il est en direct ce matin avec nous au micro de la matinale. Je vous en remercie. Bonjour Corentin Le Fur.
Bonjour et merci pour votre accueil ce matin.
Alors on va parler de politique, comme on le fait chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5, et on va parler, de Michel Barnier, qui, si j'en crois les confrères de la presse écrite, va détenir un record, le record de la plus longue réflexion, avant de composer un gouvernement. J'allais presque dire que c'était une suite logique.
Alors oui, on voit que c'est une équation qui est bien plus compliquée aujourd'hui que ce qu'on a connu par le passé, même dans l'histoire de la 5e République. On a une majorité où personne n'a de majorité. On a une situation assez inédite, donc je comprends que ce soit plus compliqué que par le passé de constituer un gouvernement. Et puis en plus, les enjeux, ils sont majeurs parce qu'il faut à la fois tenir sur la durée, représenter forcément les différentes forces politiques, donc rassembler le plus largement possible. Et puis en même temps, ne pas se tromper sur les noms parce que les enjeux, ils sont majeurs et parce qu'il faut que ce gouvernement se mette au travail le plus rapidement possible ensuite. Donc la constitution du gouvernement, je peux comprendre qu'elle mette quelques temps, mais ensuite, moi j'attends des ministres de combat opérationnels et qui puissent très rapidement répondre aux préoccupations nombreuses des Français. On a perdu beaucoup de temps. Là, c'est en grande partie la responsabilité du président de la République qui a mis beaucoup de temps à nommer un Premier ministre. C'est fait désormais, maintenant il faut qu'on avance.
Alors pour avancer, il y a aussi l'idée d'un gouvernement d'ouverture. On a entendu Michel Barnier s'exprimer autour de sa réflexion et proposer éventuellement une ouverture à gauche, une forme de gauche modérée pour répondre un petit peu à une gauche plus, ancrée dans les idéologies. Est-ce que c'est une bonne idée cette ouverture à gauche ?
Moi, je pense en effet qu'il faut un rassemblement le plus large entre des gens raisonnables et responsables qui veulent construire et avancer pour la France. Si une partie de la gauche, des sociodémocrates, des gens responsables, ou même une partie de socialistes veulent nous rejoindre et veulent travailler dans l'avenir du pays, évidemment, je l'entends, mais il faut qu'ils se désolidarisent très clairement de la France insoumise et des écolos, une partie des écolos qui sont extrêmement radicaux, qui veulent tout casser, qui ont une attitude très hostile et qui se comportent, je le vois à l'Assemblée, de manière assez inadmissible. Donc s'ils se démarquent très clairement des dangers et des postures de la France insoumise, oui, mais à cette condition seulement. Alors, et sinon, évidemment, moi je me réjouis que la droite revienne au pouvoir et que les idées de droite et que nos projets, nos propositions puissent aussi avancer.
Alors justement, la droite est un peu pointée du doigt parce qu'on dit, voilà, elle a pas fait un grand score aux élections législatives. La gauche revendique justement la victoire, le Rassemblement national aussi. Voilà, on a compris qu'on avait une Assemblée nationale très, sans majorité, morcelée. Vous dites que c'est une bonne idée que la droite revienne. Est-ce qu'il y a besoin d'apaiser aussi on va dire la vie politique, on a vu ces temps derniers très chahutés. Est-ce qu'il y a besoin d'apaisement pour pouvoir travailler, justement ?
Bien sûr, l'apaisement, il est fondamental. Et déjà, sans la droite, on ne sortait pas du blocage. C'est finalement cette position d'équilibre, avec en plus la personnalité extrêmement rassembleuse de Michel Barnier, qui a permis de sortir de l'ornière. Mais ça faisait 50 jours qu'on n'avait pas de Premier ministre après la démission du gouvernement actuel. Donc sans, l'esprit de responsabilité des Républicains et de la droite française, on ne sortait pas de l'ornière parce qu'on voit que la gauche se déchirait de manière extrêmement violente, que la gauche finalement ne veut pas gouverner ou ne veut pas faire de compromis. Donc c'était impossible d'avoir un Premier ministre de leur force politique parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux ou alors les noms qu'ils proposaient étaient, impossible à accepter. Donc finalement, c'est la droite qui a permis de sortir du blocage et je m'en réjouis. En plus, on a une personnalité, celle de Michel Barnier, qui est un homme d'État, qui a à la fois l'expérience, la stature, la hauteur de vue, pour à la fois être parfaitement indépendant du président de la République, marquer vraiment un renouveau clair et se démarquer du président de la République dans cette nouvelle politique qu'il faut conduire. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a l'esprit de responsabilité, qui a le sens du compromis, qui a su, au niveau européen, rassembler largement, et cette personnalité, elle sera essentielle dans cette nouvelle configuration où on fera la politique différemment. Et on n'a pas le choix, c'est la composition de l'Assemblée qui est comme ça, c'est les Français qui l'ont voulu. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux Français, il faut faire des compromis et il faut trouver des nouveaux équilibres.
Alors, faire des compromis, mais aussi avec une politique de rupture par rapport à la politique du président de la République et des précédents gouvernements. Est-ce qu'on peut imaginer une rediscussion? Ça a été très demandé autour, par exemple, de la réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Il y a une attente des Français. Est-ce qu'on peut imaginer, là aussi, remettre les textes sur la table, rediscuter, entériner une réforme, mais finalement peut-être différente?
Oui, d'ailleurs, c'est Michel Barnier lui-même qui en a parlé. Moi, je pense qu'en effet, on ne peut pas repartir d'une page blanche, mais ce qu'on voit et ce que je vois tous les jours, c'est les nombreuses injustices de cette réforme, les injustices suscitées par cette réforme, en particulier pour les métiers pénibles, les carrières longues. Beaucoup de gens dans cette circonscription qui ont des travaux ou des métiers difficiles, qui sont ouvriers de l'agroalimentaire, qui travaillent dans le bâtiment, qui commencent tôt, qui travaillent dans le froid, des métiers difficiles, usants pour le corps, qui ont commencé souvent en plus à travailler de manière précoce. Donc ces gens-là ont été complètement oubliés de cette réforme. On voit qu'il y a beaucoup d'injustices. Il y a aussi une grande injustice qu'on découvre de jour en jour, c'est la fameuse revalorisation des petites retraites. On voit qu'on n'est pas du tout au rendez-vous, que les promesses nombreuses qui avaient été faites par Emmanuel Macron et son gouvernement ne sont pas tenues, et qu'on a une revalorisation des retraites qui est très très faible et qui en plus oublie beaucoup de catégories. On l'a vu désormais avec les mères de famille. Mmh. On voit que finalement les trimestres pris lors des congés maternité ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la revalorisation de la retraite. Donc c'est inadmissible, c'est pas normal. Donc j'espère que Michel Barnier pourra remettre le métier sous l'ouvrage pour corriger un certain nombre d'injustices sans revoir complètement cette réforme, parce qu'il faut aussi qu'on avance.
Alors, dialoguer, aller sur le terrain, c'est aussi un des leitmotivs de Michel Barnier, qui a envie aussi de retisser ce lien qu'on a vu quand même très abîmé entre les Français et les élus de la République. Michel Barnier, qui d'ailleurs se qualifie lui-même de paysan montagnard. Alors, on l'a un peu raillé là-dessus en disant, voilà, c'est un peu... est-ce que c'est important, quelqu'un qui écoute le terrain, qui va sur le terrain, qui est prêt à entendre des idées qui ne sont pas les siennes?
Bien sûr, c'est fondamental. On a eu un problème depuis 7 ans, depuis un certain nombre d'années, de gouvernements déconnectés, centralisés, très parisianiste, qui ne connaissait pas la France et qui ne connaissait pas les préoccupations des Français. Michel Barnier, c'est quelqu'un d'ancré, qui a une expérience très longue, qui a été élu local, qui écoute les Français et qui va, à mon avis, et je le souhaite en tout cas, pouvoir faire bénéficier de son expérience et de sa connaissance profonde de la France et des Français. Et là, ça marque une rupture forte avec la politique des dernières années, et je m'en réjouis. Et en plus, son attitude et sa façon de travailler dans les premiers jours, elle est essentielle. Il va à la rencontre des Français, il va sur le terrain, il va à leur écoute, et il faut retisser en effet un lien très fort avec les Français pour à nouveau redonner goût à la politique et montrer qu'on peut avoir des dirigeants qui écoutent les difficultés, les préoccupations, les inquiétudes, les attentes, les aspirations, les espoirs aussi de beaucoup de nos compatriotes qui se sont sentis très souvent oubliés, y compris et peut-être plus encore chez nous, dans les territoires ruraux.
Alors, dans les territoires ruraux, il y a aussi des élus que vous connaissez bien, Corentin Le Fur, parce que vous êtes souvent à arpenter ces territoires ruraux, des élus qui se sentent oubliés, qui se sentent parfois aussi un peu... Allez, je vais oser le terme humilié, on a entendu l'ex-ministre maintenant de l'économie, Bruno Le Maire, dire voilà, on va avoir un déficit qui va se creuser, c'est la faute des collectivités locales, et ça passe pas sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent, des élus, quand vous les croisez, quel est leur état d'esprit?
Alors ce discours déjà de Bruno Le Maire, il est extrêmement choquant, il est inadmissible. On voit quand même un ministre de l'économie qui a été ministre de l'économie pendant 7 ans, donc l'intégralité des mandats d'Emmanuel Macron, et qui a sans doute provoqué le pire dérapage des finances publiques de l'histoire de la 5e République. Et maintenant que lui, ce ministre responsable de la dette, du déficit, donne des leçons de morale aux élus, c'est inentendable. Il faut au contraire qu'ils comprennent que les élus ont leur collectivité doivent avoir des comptes à l'équilibre. Et en plus, le font dans des conditions extrêmement difficiles, de dotation en baisse doivent se serrer la ceinture. Moi, je suis conseiller municipal, je le vois tous les jours. C'est très difficile de boucler un budget local. Et les élus, ils travaillent dans des conditions très difficiles et ils le font admirablement. Donc, on devrait plutôt les féliciter, les encourager, les accompagner, que les, comme ça, leur donner des leçons, c'est absolument choquant. Donc moi, je les vois tous les jours, ces élus, et quelles que soient les forces politiques, et souvent d'ailleurs, c'est finalement la politique locale ou municipale, elle n'a pas de couleur politique, parce qu'il faut répondre à des enjeux très concrets. Donc je les entends, je les vois, je suis sur le terrain tous les jours, et heureusement qu'on a des élus qui s'engagent, et la difficulté, ça serait peut-être au contraire d'avoir, un manque d'élus, qui serait découragé et qui voudrait plus s'engager. Donc c'est un risque majeur. Donc j'espère que le nouveau gouvernement, et ça je sais parce que Michel Barnier, il a été élu local, il connaît très bien les collectivités locales et il saura changer d'attitude aussi envers elles. Il faut que notamment les maires soient au centre du dispositif. C'est en écoutant les maires, en écoutant les aspirations du terrain, qu'on évitera de réitérer les erreurs, les bêtises qui ont été commises ces dernières années.
Alors, le terrain toujours et encore, et cette réflexion autour, alors, d'un terme qu'on n'aime pas beaucoup, les territoires, mais voilà, c'est le terme un peu générique. On entend beaucoup d'élus, justement, qui demandent à ce que les territoires soient mieux considérés, mais aussi mieux dotés, parce que le problème, c'est que au niveau de l'État, aujourd'hui, on délègue beaucoup aux territoires, aux collectivités locales, territoriales, sans donner finalement les moyens. Est-ce qu'il faut aller vers une plus grande autonomie des territoires en ce sens ?
Ah oui, moi je plaide pour un nouvel acte bien plus ambitieux de décentralisation. On voit que les communes et les collectivités, elles doivent assumer de nouvelles missions, de nouvelles tâches avec des dotations en baisse. Donc elles doivent faire plus avec moins d'argent. Donc c'est souvent extrêmement difficile et ça explique des difficultés très concrètes de citoyens qui viennent voir leurs élus très légitimement avec des attentes. Et les élus, souvent, doivent dire non, ou doivent dire pas tout de suite, parce qu'ils n'ont pas le budget pour le faire. Et c'est compliqué à gérer tout ça. Donc moi, au contraire, je crois qu'il faut que les compétences locales soient le plus déléguées au niveau, l'échelon le plus proche du terrain. Ça, c'est fondamental. Mais ça implique que l'État, en lâchant des responsabilités, ça me semble nécessaire, transfère aussi des ressources et des recettes pérennes. Donc... En effet, on a une réforme territoriale qui est indispensable, qui doit être aussi sur la table parmi les priorités du nouveau gouvernement.
Alors avec le temps qui court et puis le temps politique et le temps des contestations, on peut le dire aussi, déjà on entend la gauche qui s'est émue de l'arrivée de Michel Barnier en disant voilà, il y aura une motion de censure vis-à-vis du futur gouvernement Barnier. Reste le RN, le Rassemblement National, qui a dit pour l'instant nous on observe. Est-ce qu'il y a un risque de voir le gouvernement Barnier tomber très vite si... Voilà, il ne faisait pas ce qu'attendent les autres forces du pays. Et là, ça reste compliqué, ça reste une politique compliquée à mettre en place.
Alors bien sûr, le risque ne peut pas être écarté, mais vraiment, j'aurais beaucoup de mal. Je ne comprendrais pas le RN qui voudrait faire tomber le gouvernement de Michel Barnier.
Pour l'instant, il observe.
Avec le risque, si le gouvernement tombe, qu'on ait un retour au pouvoir de la gauche, voire la gauche dure, la gauche radicale, qui chez nous, et heureusement, ne passe pas du tout. Parce que beaucoup veulent casser plutôt que construire. Donc ça serait une option inentendable et le RN en porterait la responsabilité. Ou alors, de voir un gouvernement avec un techno, on a parlé de déconnexion. Moi, je ne veux pas d'un gouvernement, de quelqu'un qui ne soit pas élu, qui ne connaisse pas les réalités du terrain et qui ne puisse pas comprendre les priorités des Français. Donc le RN, en votant une motion de censure, porterait cette responsabilité et voterait d'ailleurs la motion de censure avec les insoumis, avec les écolos, avec... Donc une alliance, à mon avis, dangereuse des extrêmes. Donc je le souhaite pas. Il faut laisser le temps au gouvernement de travailler. Il y a des urgences très fortes. Et moi, je me réjouis. J'ai mis en avant trois priorités dans cette campagne. C'est la revalorisation du travail, de ceux qui travaillent, en augmentant le pouvoir d'achat. C'est l'accès aux soins, à la santé, à un médecin généraliste, à un EHPAD, à l'hôpital, aux urgences. Et c'est la question de la sécurité, de l'ordre, qui est indispensable et qui, on voit partout, y compris dans nos communes rurales, l'insécurité progresser. Donc ces trois priorités, déjà ces trois priorités qui doivent rassembler toutes les forces politiques, c'est pas des priorités de droite ou de gauche, c'est les priorités des Français. Donc il faut que toutes les forces politiques y concourent. Donc, moi, j'ai parlé de rassemblement d'élus raisonnables et responsables. Et évidemment, il faudra travailler sous la menace de ces deux extrêmes, qu'elles soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Mais il faut laisser le gouvernement travailler, avancer, apporter des solutions réelles et concrètes aux Français. On voit souvent que l'attitude du RN, c'est de refuser le pouvoir, d'être très content d'être dans l'opposition pour prendre aucun risque. Et c'est souvent des attitudes un peu irresponsables. Donc j'espère qu'on laissera Michel Barnier, son équipe, rassembler, avancer et apporter des solutions aux Français.
Alors, sur le RN, est-ce qu'il fallait donner des postes à l'Assemblée nationale, au RN, comme il en avait à la précédente mandature? J'ai posé la question à quelques invités ici, je voulais avoir votre éclairage, Corentin Le Fur. Est-ce qu'il fallait donner quelques postes au RN pour apaiser peut-être simplement?
Alors là, il y a quand même une grande hypocrisie, une grande fumisterie entretenue par le RN lui-même. Ce qui avait été décidé, il y avait un accord pour donner des postes au RN, et c'est normal parce que ça correspond au vote des Français. Ils sont élus, moi je ne partage pas leurs idées, mais je les respecte parce qu'ils ont été élus comme tous les autres. Et d'ailleurs, je trouvais ça absolument insupportable et inadmissible de voir des élus de la République, en l'occurrence les députés insoumis, refuser de serrer la main à des députés RN. C'est totalement scandaleux. Pour autant, lors de l'accord qui avait été formé au départ quand nous sommes installés à l'Assemblée nationale, le RN avait des postes. Le RN était représenté en proportion de son nombre de députés. Ce qu'on a vu, c'est que Marine Le Pen, elle a refusé cet accord en voulant tous les postes ou quasiment tous les postes en disant c'est ça ou rien. Donc forcément, c'était pas acceptable. Donc elle n'a rien eu. Donc c'est elle qui entretient cette image de Calimero qui se plaint de ne pas avoir de poste, mais c'est elle qui l'a souhaité en refusant ces postes. Donc, cette hypocrisie, je ne peux pas l'entendre. Le RN devait être représenté, aurait dû être représenté. S'il ne l'est pas, c'est uniquement de la responsabilité de Marine Le Pen et de sa stratégie.
Alors justement, les électeurs qui ont voté près de 11 millions hein, pour le RN ont adressé un message. Tous n'adhèrent pas aux idées du Rassemblement National, mais ils ont adressé un message. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que le message n'est pas toujours capté par toutes les forces politiques. Est-ce que là aussi, il y a urgence à écouter les Français dans leur grande diversité politique?
Bien sûr. Il faut entendre ces électeurs du Rassemblement National qui demandent moins de déconnexion, qui demandent plus d'ordre, plus de sécurité, la fin de l'immigration incontrôlée, et puis aussi qui sont souvent un vote d'agrégation des colères face à l'abandon, et notamment l'abandon chez moi, de certains territoires ruraux. On voit, et ça, le département porte une grande responsabilité, la fermeture du collège de Corlay, ou là, la fermeture d'une classe s'est amenée à la rentrée à Plussulien, des territoires ruraux qui se sentent abandonnés par les services publics, abandonnés par l'État, et qui forcément créent un sentiment d'abandon, une colère qui se répercute parfois sur le vote RN. Donc il faut entendre cette colère, ce message. Moi j'ai toujours entendu, j'ai toujours respecté, mais il faut apporter des solutions différentes. Évidemment la solution n'est pas le RN, hein, parce que le RN, on voit un plafond de verre, ne gagnera pas les élections, et deux, parce que je ne souhaite pas non plus. Mais répondre à cette attente, c'est fondamental. Répondre aux gens qui ont des petites retraites, des petits salaires, pour qu'ils soient revalorisés. Ceux qui ne trouvent pas de médecin, ceux qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour accéder à des services publics élémentaires. Évidemment qu'il faut répondre à cette attente. Donc moi j'entends, je comprends et je peux discuter évidemment avec les électeurs du Rassemblement National ou des personnes qui ont voté RN et que je respecte, mais alors les responsables politiques, moi, du RN, à mon avis, entretiennent beaucoup de démagogie, finalement ne veulent pas apporter de solution parce qu'ils vivent finalement de cette colère et de cette contestation.
Alors les territoires, ici en Bretagne, les territoires ruraux, il ne s'agit pas évidemment d'opposer la ville et la campagne, mais on le voit, il y a des demandes, vous parliez de la santé, les hôpitaux aujourd'hui, l'hôpital est en crise, il y a la difficulté à se soigner effectivement, et puis la difficulté à se déplacer, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent en disant voilà, par exemple en Centre-Bretagne, on avait une ligne de chemin de fer qui est fermée aujourd'hui, il y a quelques jours l'inauguration de la remise en service de la ligne d'Inan-Lamballe. Est-ce qu'il faut avoir un plan ferroviaire qui pourrait s'atteler à aussi à un plan plus large de transport en commun ici en Bretagne? Est-ce qu'il faut désenclaver finalement les territoires ruraux par le fer, par le rail?
Oui, c'est une des solutions. Et en effet, moi, j'espère qu'on pourra avoir une ligne de la Bretagne Nord à la Bretagne Sud qui permette de désenclaver des territoires qui n'ont pas le rail ou qui n'ont plus de ligne régulière de train. C'est une bonne idée. Il faut qu'on y travaille tous les élus concernés. Après, ça ne peut pas être la seule solution. Et il faut aussi qu'on comprenne que chez nous, dans nos territoires ruraux, dans cette circonscription, il n'y a pas d'alternative évidente à la voiture parce que beaucoup de nos concitoyens travaillent en 2-8, en 3-8, dans des usines. Moi, j'ai des grosses usines dans mon territoire, je pense à Kermenet, à la Coperle, qui sont indispensables pour le développement économique du territoire, mais qui sont dans des zones rurales, qui ne pourront pas être desservies par le train. Donc, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Évidemment, le covoiturage doit être une solution, mais il faut croire qu'on pourra abandonner la voiture et faire en sorte demain que plus personne ne prenne la voiture, c'est une utopie.
Voilà, là, il s'agissait de développement.
Et au contraire, on a besoin de rendre le transport en voiture moins cher pour des gens modestes pour qui se déplacer devient souvent un luxe. Donc, sur la question des mobilités, il y a beaucoup à faire.
Alors, il y a les mobilités, puis il y a le logement. On en entend beaucoup parler ici en Bretagne, le problème des jeunes qui entrent dans la vie, ou même des moins jeunes, qui n'arrivent pas à se loger parce que ça devient trop cher, parce qu'il n'y a plus de construction. Et là aussi, il y a un dossier important pour la Bretagne à prendre à bras le corps.
Bien sûr, le logement, c'est fondamental. Nous, on avait une chance dans nos territoires en Bretagne, et en particulier dans les territoires ruraux, c'est qu'on avait un fort taux de propriétaires. Désormais, c'est terminé. Les gens de ma génération ne peuvent plus ou ont extrêmement de difficultés à accéder à la propriété. Et il y a une erreur majeure qui a été commise par le précédent gouvernement, c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui fait en sorte qu'on a gelé la construction et qu'on va geler la construction dans des territoires ruraux qui ont besoin d'accueillir des familles, qui ont besoin de faire construire pour se développer, pour rester dynamique. Donc là, avec le ZAN, on va interdire l'accès à la propriété parce que le coût, la construction d'un logement et même l'accès à un logement va se renchérir mécaniquement et on va pénaliser les territoires ruraux qui n'auront plus de moyens de se développer. Donc c'est une catastrophe. La question du logement, elle est fondamentale et il faut encourager la propriété, entendre aussi les préoccupations de Français. Évidemment, moi je crois beaucoup à la rénovation, ça doit être prioritaire et c'est essentiel, mais il faut aussi entendre beaucoup de nos compatriotes et c'est normal qu'ils veulent construire ou qu'ils veulent faire construire, qu'ils veulent avoir un petit bout de terrain pour élever leur famille et il faut qu'on leur apporte des solutions. Donc la question du logement, elle est fondamentale parce que sans logement, nos territoires, c'est nos territoires ruraux qui sont en péril.
Alors il y a aussi la question de l'environnement, on en parle beaucoup aujourd'hui. On dit souvent que la droite ne s'intéresse pas à l'environnement, vous allez me démentir si je dis des bêtises, mais voilà, aujourd'hui il y a la préoccupation de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie, évidemment. Alors on sait que votre père, Marc Le Fur, s'est un petit peu opposé aussi à l'implantation d'éoliennes. Est-ce qu'il faut repenser notre schéma énergétique ici en Bretagne?
Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est pas du tout l'écologie ne doit pas être accaparée par la gauche, au contraire. La vraie écologie, en tout cas, c'est la défense justement de nos territoires et de les rendre le plus habitables possible et préserver la planète pour les générations futures. Mais deux choses. Déjà, pour revenir sur les éoliennes en mer, par exemple, en plus de saccager des paysages, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éoliennes en mer, on va forer et on va mettre du béton dans des coraux. Donc c'est écologiquement, c'est intenable. C'est même ce qui est le plus anti-écologique. Et d'ailleurs, beaucoup d'associations de défense de l'environnement s'était élevé contre ces éoliennes. Hélas, en vain. Évidemment, moi, je pense que les éoliennes ne sont pas du tout la solution. Au contraire, c'est souvent un peu une idée d'écolo des villes qui ne voient pas les difficultés très concrètes pour des citoyens pour lesquels ces éoliennes sont devenues invivables. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Ça peut passer, évidemment, par le développement durable. Et il faut l'accompagner, notamment les panneaux voltaïques, mais ça ne va pas être la solution. Et évidemment, le nucléaire doit être la solution parce que c'est une énergie décarbonée, donc qui préserve la planète et en même temps qui permet de produire à bas coût, donc d'avoir une énergie peu chère. Or aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus de difficultés, on ne doit pas être dépendant évidemment des énergies fossiles, on doit, parce qu'on le voit, la facture d'électricité ou la facture d'énergie de nos compatriotes, elle a explosé, donc il faut qu'on maîtrise le coût de l'énergie et en même temps, il faut qu'on produisent une énergie moins carbonée, qui ne pollue pas, et qu'on fasse de cette question écologique une priorité. Moi, ce que je reproche, évidemment que l'écologie, c'est une cause de ma génération auquel je crois beaucoup, mais ce que je reproche à la gauche et l'extrême gauche, c'est de savoir accaparer l'écologie, d'en avoir une vision extrêmement punitive, une écologie finalement qui veut tuer l'agriculture, la chasse, qui ne comprend pas les réalités de notre territoire, qui est très déconnectée, qui est très dogmatique, et évidemment, celle, je veux la combattre. Mais on a tous des efforts à faire, quels que soient d'ailleurs les secteurs de notre économie, mais ça ne va pas être une écologie qui doit être punitive et qui doit surtout pénaliser en particulier les territoires ruraux.
Un dernier mot, il nous reste une petite poignée de secondes, on n'aura pas le temps. Je voulais vous entendre sur l'agriculture, là aussi.
Agriculture fondamentale, et j'espère qu'on doit avoir un gouvernement cette semaine et qu'un ministre de l'Agriculture pourra être là au SPAS cette semaine.
Voilà, et pourquoi pas un ministre de l'Agriculture breton. Allez, soyons chauvins. On va être chauvins jusqu'au bout, il y a eu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Une belle moisson de médailles pour la France et pour la Bretagne.
Ah oui, formidable. Moi, j'ai eu la chance de vivre une émotion incroyable en allant assistant aux Jeux Paralympiques en voyant la médaille d'or d'Alexandre Léauté chez moi de Saint-Cardec, en plus avec deux quarts.
Tout près de l'Oudéac, je le dis.
Exactement. On était avec deux quarts de Saint-Cardec et de l'Oudéac. Il y avait une ambiance extraordinaire. Il a récolté une moisson de médailles, mais donc deux médailles d'or, deux médailles de bronze. Ça a été sans doute la grande star de ces Jeux françaises, de ces Jeux Paralympiques. En plus, il est breton. En plus, il est de Saint-Cardec. Donc, c'était une grande fierté et puis une émotion fabuleuse de voir ça. Dans une vie politique agitée où on a parfois des journées difficiles, beaucoup de boulot, pouvoir assister à ces moments de ferveur incroyable et vibrer derrière un athlète qui réalise des performances pareilles, c'était magique.
Comme quoi on peut réunir les Français autour du sport.
Exactement, moi je crois finalement ces Jeux Olympiques extrêmement réussis, brillants, ont montré une ferveur, ont montré que les Français, quand ils étaient capables de se rassembler, faisaient des choses merveilleuses. Il faut que le monde politique l'entende et qu'on soit capable de continuer sur cette voie, de se rassembler quand il y a des causes qui nous dépassent et qui nous permettent finalement des moments de communion.
Corentin Le Fur, député Les Républicains de la 3e circonscription des Côtes d'Armor, Lamballe-Loudéac, qui est également au groupe Droite Républicaine à l'Assemblée Nationale, était avec nous ce matin. J'ose vous dire bonne rentrée, c'est pour bientôt à l'Assemblée.
Exactement, bon, j'ai commencé à bosser depuis un petit bout de temps, mais la rentrée parlementaire, en tout cas, j'espère, se fera rapidement.
Très belle journée à vous.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.